HTR.
C'est sur le 99.
Bienvenue à toutes et à tous dans le Café Féministe, un espace libre, un espace vivant où les voix se croisent, où les opinions se confrontent et où la réflexion s'invite à chaque table. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet sensible, un sujet qui divise, questionne et fait réagir. Le port du voile et sa dimension féministe ou non. Pour en parler, j'accueille autour de la table Maria et Marie-Vonne de l'association Attaque, ainsi que Christine, membre du groupe d'action féministe. Ensemble, on va d'abord tendre l'oreille à la rue, écouter les avis, les ressentis, entre convictions, doutes et idées reçues, puis nos invités partageront leur regard, leurs expériences et leurs positions. Et enfin, place au débat. On prendra le temps de déconstruire, de questionner les arguments, de comprendre ce qui oppose et ce qui peut rassembler. Alors installez-vous, le café féministe est servi. Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau volet du Café Féministe. Aujourd'hui à mes micros, j'ai trois magnifiques invités qui sont là et qui vont se présenter ainsi que leur association respective. Bonjour.
Bonjour, alors moi je m'appelle Maria et je suis membre de l'association Attaque.
Nous avons également à l'antenne une autre invitée.
Bonjour, je m'appelle Marie-Vonne et je suis également membre de l'association Attaque, qui est une association altermondialiste qui lutte pour la justice fiscale, sociale, environnementale, qui a été fondée par Gisèle Halimi et dont le féminisme est un élément structurant et fondateur.
Et la petite nouvelle qui a nos micros, bonjour madame.
Bonjour, bonjour, moi je suis Christine et je suis membre du groupe d'action féministe. Comme son nom l'indique, c'est une organisation féministe, mais c'est aussi une organisation antiraciste, antifasciste, anticapitaliste et puis bien d'autres choses, parce que pour nous c'est important de voir la convergence et ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire le croisement et le renforcement qu'il peut y avoir entre les différentes dimensions des combats d'émancipation.
Bonjour à toutes mesdames. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet nécessaire qui est le port du voile musulman, comme on l'appelle communément le hijab. Donc le hijab, est-ce féministe ? Je me suis renseignée auprès de la population, je suis allée à la rencontre pour faire un micro-trottoir pour entendre les avis pour et les avis contre. Et ensuite, nous finirons d'aborder le sujet en écoutant l'avis de mes invités. J'émettrai en tant qu'avocat du diable les avis populaires des personnes contre, afin d'en débattre ici maintenant dans cette émission. Mais tout de suite, le port du voile, est-ce féministe ?
Absolument pas, c'est bien au contraire. Pour moi, c'est le signe évident de la manipulation de la femme, qui doit rester soumise et à sa place. C'est la soumission de la femme, pour moi, le voile. Et donc, j'accepte pas, évidemment. Pour moi, l'homme et la femme ont évidemment des différences, ça c'est évident, mais ça s'équilibre. Et on est fait pour vivre ensemble, hommes et femmes. Un homme serait voilé, que ça ne me dérangerait pas que la femme le soit. Ou alors, on n'a qu'à faire pousser de la barbe sur les femmes. On met les femmes à barbe, et puis comme ça, il n'y a pas de problème. En tous les cas, moi j'ai une petite fille qui se dit plutôt être pour l'islam. Je lui ai toujours dit qu'il était hors de question qu'elle mette les pieds chez moi avec un voile. Pour moi, c'est inconcevable. Je suis partante pour la femme qui décide de sa vie et non qui se la trouve dictée par un autre. Je dis bien un autre. Parce que ce serait une autre que ce serait pareil. Moi, je pense qu'on a besoin de vivre notre vie comme on l'entend.
Le fait qu'une femme choisisse de le porter.
Pour moi, ce n'est pas un choix du tout. Pour moi, je pense qu'elle a été élevée là-dedans depuis son plus jeune âge. Donc pour elle, ce serait impensable autrement. Il y en a qui le font, mais elles le payent cher. Parce qu'il y a des femmes qui se sont trouvées lapidées. Vraiment, morte sous les pierres, faut quand même le faire, c'est quand même grave. Puis on les a tellement inculqués là-dedans que pour elles, c'est clair comme de l'eau de roche, il faut porter un voile. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de petites jeunes qui les portent alors que leur propre mère n'en porte pas. Alors là, pour moi, on retombe en arrière. Là. C'est plus 8 siècles de retard qu'on va avoir, c'est 1000 ans si ça continue. Non, c'est complètement ridicule. Pour moi, c'est inacceptable.
Alors, concernant le port du voile, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, le fait de porter le voile en France, ce n'est pas le voile d'Iran. Ce n'est pas le voile en Azerbaïdjan ou en Russie ou en Algérie. Tout est relatif sur cette question. Maintenant, j'ai plusieurs choses à dire autour du voile. Déjà, premièrement, je ne suis pas pour le voile, mais je ne suis pas contre non plus. Moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que je vais prendre exemple les pays occidentaux. dans les pays occidentaux, moi je fais un parallèle très simple avec par exemple la pilosité des femmes. C'est une sorte de voile. Pourquoi je dis ça? Parce que de manière indirecte et parfois très directe et très violente, on impose aux femmes en Occident de s'épiler ou de se raser. Il ne faut pas qu'une femme ait des poils sur les jambes ou même sur le visage ou pas trop sur les bras, etc. Ça comporte des risques d'ailleurs de les enlever pour des questions sanitaires, mais je ne me pencherai pas sur le sujet. Une femme qui ne retire pas ses poils, elle va être mal vue, elle va être critiquée, elle va être méprisée, elle va être repoussée. C'est vraiment une violence, je dirais ça comme ça. Donc en fait, la femme, vis-à-vis de la pilosité, en Occident, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle est obligée de retirer ses poils, parce que ce n'est pas accepté socialement. Et en fait, ce qui me fait un peu rire, c'est ces gens qui critiquent les femmes voilées, alors qu'eux, ils ne vont pas comprendre qu'une femme garde ses poils. C'est ça que moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie masquée. Et par rapport au voile aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que je fais un parallèle avec le porno ou la prostitution. Les gens, ils s'offusquent de voir des femmes voilées, mais ça ne les offusque pas de voir des femmes se prostituer ou faire de la pornographie, donc d'exploiter leur corps à des fins sexuelles. Ça ne les choque pas plus que ça. Ils vont avoir l'argument souvent de dire une femme fait ce qu'elle veut de son corps. Mais si elle fait ce qu'elle veut de son corps, elle peut aussi porter le voile dans ce cas. Ce que j'essaie de dire, c'est que je peux comprendre que le porno, la prostitution, ça puisse choquer. Je peux comprendre que le voile, en quelque sorte, ça puisse choquer, parce que c'est une sorte de soumission de la femme. Mais dans les deux cas, la femme, elle est soumise, en fait. Et moi, qui suis-je pour dire qu'un tel n'a pas le droit d'être soumis? C'est ça, la liberté, malheureusement. C'est pas ce que Michel ou Jean-Jacques, ils veulent. C'est ce que tout le monde veut pour soi, tout simplement. Une femme qui est voilée devant moi, ça n'empiète pas sur moi. Elle m'impose pas de porter quelque chose. C'est ça, en fait. J'entends souvent des discours vraiment haineux vis-à-vis des femmes voilées. J'entends ceux qui disent que... Je suis d'accord avec eux quand ils disent qu'il y a des femmes, en fait, elles n'ont pas le choix, donc c'est pas normal. Ok, c'est vrai, je pense qu'il y en a qui n'ont pas le choix et ce n'est pas normal. Maintenant, pourquoi ces gens ont des discours haineux envers ces femmes-là? Pourquoi ils ne les aident pas? Pourquoi ils ne s'engagent pas dans des associations? Pourquoi ils ne vont pas leur parler, leur demander leur avis? Parce que j'ai remarqué que c'est des gens qui ne fréquentent pas le monde arabo-musulman. C'est des gens qui ne s'intéressent pas à l'islam, ils ont le droit. C'est des gens qui ne s'intéressent pas du tout aux origines ethniques des autres. Ils n'y connaissent rien, en fait. Ils se contentent juste de juger, sans vraiment connaître, sans vraiment prendre le temps de dialoguer avec ces personnes. Donc, je leur pose la question, si vous détestez vraiment les femmes qui portent le voile, si vous pensez que ce n'est pas de leur faute, pourquoi vous leur crachez dessus? Pourquoi vous ne les aidez pas? Elles ont peut-être besoin de soutien, d'être épaulées, de se sentir moins seules. Aidez-les. Et là, vous allez me dire, oui, mais non, en fait, il y en a plein, elles le font exprès. Donc déjà, vous êtes un peu en contradiction. Et s'il y a les deux côtés, celles qui font exprès et celles qui sont forcées. Donc celles qui font exprès, si elles le veulent encore une fois, laissez-leur leur libre arbitre. Une femme, c'est pas nécessairement se mettre en jupe, se mettre en débardeur. Une femme, c'est comme elle a envie d'être. Si une femme, elle a envie d'être soumise, moi ça me fait mal au cœur de voir une femme soumise. Mais tout comme voir un homme soumis aussi, ça me ferait mal au cœur. Un homme qui n'a pas beaucoup de personnalité, qui se laisse faire, qui se laisse marcher dessus, ça me fait mal au cœur. Mais en fait, si ça lui plaît, je suis personne pour lui interdire. Parce qu'on est en France.
Et justement, parce qu'on est en France, ceux dont l'argument de refuser le voile, c'est de dire « on est en France, ça ne fait pas partie de notre culture, on est envahi par l'islam ». Ceux qui rejettent les femmes voilées à cause de ça, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire?
Ce qui fait partie de notre culture, c'est la laïcité, c'est la liberté d'expression, c'est le qui on veut être. Quand j'étais plus jeune, j'avais une période gothique et un peu punk. Et j'ai jamais été autant discriminée, insultée, voire même violentée physiquement, mais vraiment. Mais pourquoi en fait? Ça fait pas partie de la culture française d'être gothique, d'être punk, d'accord? Mais en fait, est-ce qu'on est obligé aussi d'avoir un physique qui se rapporte à la culture française? Est-ce qu'on est obligé en fait? Non. Ce qui fait la beauté de la France, c'est la liberté, c'est qui on veut être. Et j'entends tellement de gens me répéter à longueur de journée, chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, c'est selon leurs limites. J'entends qu'on peut ne pas être à l'aise de voir le voile intégral. Et moi, je ne parle pas du voile intégral, je parle du foulard notamment. Le voile intégral... Si je vois des femmes avec le voile intégral devant moi en France, je ne serai pas à l'aise, mais je ne suis pas à l'aise non plus de voir des gens nus sur les plages publiques. Je ne suis pas du tout à l'aise, ça me gêne. Pourtant, est-ce que j'ai le choix? On ne me laisse pas le choix. Je ne suis pas à l'aise quand je vois des gens crier dans les transports en commun. Mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est vivre en société, c'est la vie. Parfois, il faut s'écraser, il faut accepter. Quand ça va loin, c'est quand il y a des agressions. Quand il y a des agressions, moi, j'essaye de défendre les gens. Souvent, les gens, ils ne font rien. Il y a non-assistance à personne en danger. Ça, c'est inadmissible. Ça, il faut agir. Il faut faire quelque chose. Mais contester et insulter, humilier quelqu'un qui est différent physiquement, moi, je le tolère pas.
On me demande souvent mon avis sur le port du voile. Moi, je ne porte pas le voile. J'ai des amis qui le portent, j'ai des amis qui ne le portent pas, j'ai des amis de toute origine, de toute religion. Je pense que le plus important, c'est pas d'interdire ou de proscrire quelque chose, mais simplement en fait qu'il soit fait avec le cœur. Si une femme décide de porter le voile pour elle, pour ses convictions, pour sa protection, pour son bien-être mental, moral, qu'elle le fasse, parce que ça viendra du cœur. Je dirais non à toute chose à partir du moment où il est imposé. Moi, j'ai pas envie qu'on m'impose quelque chose, j'ai pas envie qu'on m'impose certains droits féministes, comme j'ai pas envie qu'on m'impose certains droits des hommes. Simplement, en fait, juste vivons ensemble, vivons en harmonie. Le problème maintenant, de nos jours, c'est qu'on veut mettre tout le monde dans une case. Si quelqu'un souhaite porter le voile, il le fait. Si quelqu'un ne souhaite pas porter le voile, il ne le fera pas. Si quelqu'un souhaite être féministe et se battre pour certains droits, il a parfaitement le droit. Si moi, j'ai envie de me battre, d'être cette Miss qui est une vraie conviction pour moi et de me battre pour d'autres valeurs, c'est aussi mon droit. Si j'ai envie de me battre pour tous ces corps, qu'on soit grand, petit, mince, rond, c'est aussi mes convictions. Et en fait, c'est ça qui m'énerve à l'heure actuelle, c'est de devoir mettre encore une fois des gens dans des cases. Sortons tout simplement de ces cases-là. Et à partir du moment où on aura cassé ces cases-là, on se rendra compte que la vie sera 10 fois meilleure et 10 fois plus belle.
Pour moi, le voile n'est pas en accord avec le féminisme, parce qu'il repose souvent sur une norme qui demande aux femmes de se couvrir plutôt que d'exiger des hommes qu'ils se comportent correctement. Ça pose aussi une question sur la notion de choix. Peut-on vraiment parler de liberté quand on a grandi dans un cadre qui valorise fortement cette pratique ? Et je trouve que c'est aussi problématique pour les hommes parce que ça sous-entend qu'ils ne seraient pas capables de se contrôler, ce qui est une vision assez dévalorisante d'eux, en somme.
Retrouvez le podcast du Café Féministe de Radio HDR sur Spotify et YouTube.
Nous allons aborder la question du féminisme dans le port du voile. J'aimerais me faire dans cette émission l'avocat du diable en soumettant les idées populaires des personnes contre. Mais avant ça, j'aimerais entendre vos idées. Je vais commencer avec vous, Maria, si vous êtes d'accord.
Oui, volontiers. Je reviens, je fais un petit détour par le déroulé du café débat féministe qui s'est tenu le 29 janvier et qu'on a co-organisé ensemble ATTAC, le GAF, nous toutes et le planning familial. Cette question-là, elle est sur le port du voile des femmes musulmanes. En fait, elle est apparue dans le 4e débat de cette soirée. Ce débat-là portait initialement sur la question de l'intersectionnalité dont parlait Christine tout à l'heure. L'intersectionnalité, c'est un mot un petit peu comme ça, savant, pour dire quelque chose d'assez simple finalement. Ça veut dire que c'est simplement prendre en compte les différentes formes de domination pour les faire se croiser, parce qu'elles se croisent justement ces différentes formes de domination, la domination de classe, la domination de genre, la domination liée à l'assignation à une race, etc. Et c'est de prendre en compte toutes ces dominations pour lutter contre en même temps et faire converger d'ailleurs les luttes contre ces différentes dominations et discriminations pour arriver à acquérir de nouveaux droits et à l'émancipation au bout du compte. Voilà. Et donc, à l'intérieur donc de ce débat portant sur ces questions-là, qui est une question très importante dans le mouvement féministe aujourd'hui, la question de l'intersectionnalité, le port du voile cristallise de façon extrêmement forte cette question-là. Et c'est pour ça qu'il a pris une place importante dans le débat du 29, parce qu'il soulève des questions, notamment du racisme. Je pense qu'aujourd'hui, certains courants politiques prennent prétexte de la défense de la laïcité comme principe universaliste pour, en fait, développer une forme, enfin, pas une forme, pour développer des idées racistes à l'encontre des femmes qui portent le voile. Je crois que c'est important de souligner que aujourd'hui, il y a une instrumentalisation, en quelque sorte, politique, notamment par les milieux d'extrême droite, de droite, mais pas que. Aussi, il y a une partie d'une certaine gauche, la gauche valsiste, hein, notamment la gauche prônée par M. Valls, qui instrumentalise la laïcité pour en fait discriminer une catégorie de femmes vivant dans ce pays aujourd'hui et qui portent le voile. Donc voilà quelques réflexions générales sur le sujet. Voilà, j'aurai l'occasion peut-être de réintervenir tout à l'heure.
Avec plaisir, merci beaucoup. Qu'en pensez-vous ma chère Christine ?
Effectivement, cette question du port du voile, du port du foulard, du port du hijab, c'est une question qui a véritablement fracturé, je pense qu'on peut dire fracturé, la gauche. Et peut-être encore plus et de manière encore plus forte, je dirais peut-être même plus intime, le mouvement féministe. Et donc c'est important de revenir là-dessus parce que moi je suis issue, enfin je suis militante féministe de longue date, parce que j'ai commencé très jeune et parce que je suis très vieille. Et dans un courant féministe, qu'on appelait un courant féministe lutte de classe, qui s'est toujours revendiqué de l'articulation entre le féminisme mais aussi la lutte anticapitaliste, la lutte contre l'exploitation dans le travail, la surexploitation dans le travail, et puis aussi la lutte contre le racisme. Mais à une époque où la lutte contre le racisme était surtout, d'abord les hommes étaient beaucoup plus visibles, beaucoup plus présents, et donc c'est relevé plutôt de la solidarité avec ce qu'on appelait les travailleurs immigrés, donc en général des hommes. Il y a eu des discussions importantes sur les difficultés auxquelles les féministes ont pu être confrontées, enfin celles qui se posaient ces questions-là, d'instrumentalisation déjà de la lutte contre le viol en particulier, avec véritablement une stigmatisation de la figure de l'homme arabe comme violeur. Je fais vite, ça m'arrache la bouche de dire ces mots-là, mais il y avait vraiment ça, et donc il y avait déjà une réflexion sur l'instrumentalisation du féminisme et de la défense des droits des femmes et de la lutte contre le viol. Mais c'est vrai qu'autour de cette question du voile, il y a véritablement eu un basculement. Mais le basculement, il ne s'est pas produit d'abord autour de la question du voile. Il s'est produit dans la société par un basculement sur un déplacement du racisme et le déplacement du racisme sur le terrain de ce qu'on va appeler l'islamophobie, c'est-à-dire la stigmatisation, la criminalisation de l'islam, des musulmans, des musulmanes ou de celles qu'on va considérer comme potentiellement pouvant être musulmans, musulmanes. Tout ça dans un moment de durcissement autour des questions de l'antiterrorisme et où l'antiterrorisme est devenu, là aussi, a envahi le débat public. Et on a comme ça toute cette espèce de fatras qui annonce d'une certaine manière la situation dans laquelle on va être aujourd'hui. C'est au cœur de ça qu'a été largement instrumentalisé le débat sur le voile et sur le foulard, dans quelque chose qui aurait dû faire se lever, j'allais dire comme une seule femme, toutes les féministes, une véritable instrumentalisation des femmes et du corps des femmes et de leur représentation. Parce qu'il s'est joué autour de ça, une discussion qui passait par-dessus la tête des premières concernées. En fait, rien à foutre, désolé, de ce que celles qui choisissaient de porter ou de ne pas porter le foulard pensaient, des raisons pour lesquelles elles le faisaient. Il y avait des gens qui discutaient par-dessus elles et qui savaient mieux qu'elles ce qu'elles avaient en tête. Avec un peu l'idée que, bon, ça c'est ce qui s'est joué autour de la loi qu'on appelait la loi de 2004, hein, sur l'interdiction du port du foulard à l'école, c'est qu'il fallait bien protéger ces pauvres petites qui ne savaient pas ce qu'elles faisaient, qui ne savaient pas pourquoi elles le faisaient. Et on a véritablement vu autour de cette question du foulard, parce qu'elle s'était posée auparavant dans les établissements scolaires. Et il y avait eu un rendu du Conseil d'État, il y avait eu des positionnements des partis de gauche en général, pour dire que ce n'était pas juste d'interdire le port du foulard aux élèves à l'école. Et puis, il y a eu un moment où ça a basculé. Et ça a basculé avec cet air du temps, véritablement tournant sur la place donnée à la lutte, soi-disant contre le terrorisme, mais autour de ça, véritablement une émergence, une forme de racisme un peu différente qui prenait la forme plus d'un racisme anti-musulman que du racisme plus classique. Voilà, et donc de ce point de vue-là, véritablement, j'allais dire comme d'habitude, comme souvent, il y a véritablement une instrumentalisation des femmes dans ce débat-là. Et donc c'était très important pour les féministes, en tout cas je considère, de se positionner là-dessus, de ne pas être instrumentalisées et véritablement de garder le cap sur... On commence par écouter la parole des premières concernées. On commence par essayer de comprendre nos sœurs. Et on essaye de comprendre aussi ce que ça fait
d'être à ce point-là stigmatisé. Voilà, parce que la multiplication des actes islamophobes a suivi de ça. Et les premières victimes sont les femmes. Et donc, je dirais une solidarité élémentaire, une solidarité féministe élémentaire devrait d'abord de se solidariser avec ces femmes qui sont stigmatisées, qui sont pourchassées, qui sont mises à l'écart, que ce soit sur le travail et sur les sorties scolaires, puisqu'ensuite c'est ces questions-là qui se sont posées. Et surtout, de se méfier, mais comme de la peste, de tous les discours qui prétendent libérer les femmes, ou n'importe qui, hein, parce qu'on pourrait dire la même chose avec les bombes qui sont balancées actuellement en Iran, mais libérer à la place de, ça ne marche jamais. Il n'y a pas de libération qui ne soit pas l'auto-libération, l'auto-émancipation, et ça c'est, je pense, quelque chose aussi de profondément inscrit dans le féminisme, en tout cas dans le féminisme que nous on défend.
Marie-Yvonne, qu'en dites-vous ?
Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Christine. Et comme Maria, tout à l'heure, avait commencé à parler des mouvements qui, à gauche, stigmatisent les musulmanes, et tout particulièrement les musulmans aussi, mais stigmatisent. Donc, pour le citer, le mouvement de Manuel Valls, le printemps républicain, je voudrais faire une petite retour historique sur, puisqu'on est là à la veille des élections municipales, Mitterrand avait promis dans son programme, je vais être très rapide, parce que je vais parler des hommes et des femmes, il avait promis dans son programme le droit de vote des étrangers aux élections locales. Ce droit de vote n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a des sous-personnes, il y a des non-droits qui vivent alors que ces gens-là travaillent, payent des impôts, etc., mais n'ont pas le droit de s'exprimer même à l'élection locale. Et dès 1983, après avoir reçu en grande pompe les jeunes qui manifestaient la marche qui était partie de Marseille, la grande marche pour l'égalité, qui a traversé la France pour dénoncer les violences racistes en France. Il y avait eu l'obtention d'une carte de séjour, mais François Mitterrand a repris très très vite, puisque la situation économique s'était dégradée, il a repris très très vite le vocable de seuil de tolérance pour les étrangers. Ce vocable a été lourd de conséquences parce qu'il y a eu rigueur et austérité. Et en même temps, quand les ouvriers immigrés de l'usine Talbot de Poissy se sont mis en grève, plusieurs ministres, dont André Mauroy, ont parlé de manipulation de ces ouvriers par les intégristes musulmans, ce qui a ouvert un boulevard pour la droite et l'extrême droite et une surenchère raciste et sécuritaire. Et là, ça a ouvert vraiment un boulevard. Boulevard qui s'est accentué avec le World Trade Center et en 2015 les attentats, c'est-à-dire l'assimilation entre musulmans et terroristes. Et ça, c'est important pour comprendre comment la gauche, une partie de la gauche, celle qui a beaucoup pignon sur rue, réagit comme ça et continue à avoir cette attitude. Et quand, en ce qui concerne le voile, comme a tout à fait dit Christine et également Maria, c'est que la position de base, c'est que le voile n'est pas un signe qui symbolise la soumission des femmes, point à la ligne. Et nous, les féministes, on estime que l'impératif féministe, c'est de défendre la liberté individuelle, l'autonomie des femmes, et en particulier de s'habiller à leur guise. Et que ces prétendues normes, elle ne pèse en général que sur les femmes. On a connu, il y a 2 ans, à la rentrée scolaire, le cas de l'abaya. Et d'ailleurs, ce qu'est cette robe un peu longue, et d'ailleurs, ce qu'a très très bien fait tout de suite le syndicat, je sais que chez le SNES l'a fait, mais peut-être d'autres syndicats, ils ont tout de suite repris, alors qu'il manquait des profs partout, et ils ont mis abaya plus de ceci, abaya plus de moyens pour l'éducation, abaya plus de profs, voilà. C'est-à-dire le mot abaya sur la réalité de ce qu'il n'y avait plus. Et ça, ça a été extraordinaire, parce que tout le monde a souscrit, ah ben non, il n'y a plus de profs, abaya plus de profs, voilà. Et alors qu'on s'en prend encore, trop longue, trop courte. Toujours, toujours les femmes.
Trop couvertes ou pas assez, c'est aux femmes de décider. C'est toujours sur les femmes que pèsent les injonctions à se conformer. Voilà, vois ton nombril. Oh, ben là, on voit pas tes cheveux.
Oui, c'est vrai.
Mon corps, c'est bon corps.
C'est toujours aux femmes. Hein.
Juste un petit mot, hein, pour pas prendre trop de temps, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes portent le voile, mais là, je pense que je vais pas être la seule à en parler. Il faut comprendre que moi, j'habite dans le quartier du Château Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui est l'autre côté des sapins. Donc, il faut comprendre la façon dont les populations sont accueillies par la France. Il faut comprendre, au lieu d'un accueil de reconnaissance, les gouvernements successifs n'ont cessé de discriminer les populations, d'origine maghrébine tout particulièrement, ou subsaharienne. Le racisme anti-musulman, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fait florès, hein, il s'est bien développé, et dans les lieux communs tout particulièrement. Et donc il faut comprendre qu'il y a aussi, quand une population semble avoir fait son deuil d'une égalité possible et se sent exclue de cet universel, elle se met à revendiquer sa spécificité. Et donc les pôles culturels, religieux, culturels, parce que la religion, ça fait partie de la culture, hein, ont tendance effectivement à rassurer, à être des lieux où il y a de l'accueil. Quand on accueille les gens comme des chiens, faut bien le dire, quand on discrimine les gens comme des chiens. Moi, je sais que mes deux filles ont fait leur scolarité à Saint-Étienne-du-Rouvray, et tout particulièrement au collège Louise Michel, où il y avait 17 ou 20 nationalités différentes. Le premier contact qu'elles ont eu avec le racisme, c'est quand elles ont été avec les élèves de leur classe, quelques camarades, que la prof de français avait dit « faut aller chercher des livres ». C'était à la librairie, donc c'était rive droite. Elles reviennent avec leurs petits camarades. Et qu'est-ce qu'elles se font ? Elles se font arrêter par la police. C'est pas elles qui se font arrêter par la police, c'est leurs camarades. Et leurs camarades qui se sont fait tout de suite tutoyer et même injurier. Je me rappelle, ma fille aînée est rentrée à la maison en pleurs. C'est le premier contact qu'elle a eu avec le racisme. Deuxième contact, c'est quand un enfant a dit à son camarade qui lui avait ramassé, qui lui avait donné une pièce, elle lui a dit « mais tu lui dis pas merci, il a ramassé cette pièce que tu avais perdue ». Et il lui a répondu « moi je dis pas merci à ces gens-là ». Et Élise, elle était en pleurs aussi. C'est comme ça que mes filles ont découvert le racisme, c'est leurs camarades de classe. Et la discrimination sociale, parce qu'une petite bande, alors une bande de jeunes de Saint-Étienne-du-Rouvray, va acheter son livre de français à l'Armitière. Donc rive droite, voilà.
Je vous remercie mesdames, je vous propose une petite pause sonore et on se retrouve juste après.
Leur vie, parce qu'ils ont voulu s'en remettre à demain, dessiner l'avenir, le brandir de leurs mains. Continuer la mémoire héritée des ancêtres, pour qu'on ne voit jamais sa terre
disparaître.
Cette terre poussière, fortune du manant, la monnaie des colons, la fierté de l'Orient.
Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit avoir ma peau.
Cette terre désert qui baigna dans le sang, lorsque les blancs entrèrent au gré des quatre vents. Cette terre défendue, maintes et maintes fois reprise, que nos pères ont tenue quand le monde lâchait prise.
Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit vouloir ma peau.
De nos pierres va
face aux canons des chars et tes murs de poussière nous privant de victoire. Un peuple délogé, isolé de son sol, qui voudra rattraper.